Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le martyre a été pour les premiers temps de l'Église, encore qu'il n'a jamais cessé d'être demandé par Dieu, même aux époques modernes, mais surtout, il est resté, à toutes les époques de la chrétienté, comme un modèle de vie chrétienne. Je vous ai raconté que sainte Thérèse d'Avila, au XVe siècle encore, désirait être martyre. Et le XXe siècle a été une époque de martyrs avec la croisade des Cristeros au Mexique, avec la guerre d'Espagne, et puis tous les martyrs du communisme, du nazisme, il ne faut pas l'oublier, et tant d'autres encore. Cependant, ce n'est pas le sujet de mon sermon aujourd'hui, et je voudrais aujourd'hui traiter avec vous comment on remplace le martyr lorsque Dieu ne demande pas le martyr. Mais pour traiter cette question, la référence, c'est le martyr. Parce que la référence, c'est notre Seigneur sur la croix et Notre-Dame au pied de la croix. Voici le point de départ de mon sermon. Dieu est vrai, bon et un. C'est la même chose, hein? Tout ce qui est vrai est bon, tout ce qui est bon est vrai, tout ce qui est vrai ou qui est bon est un. Surtout quand il s'agit du souverain vrai, la suprême sagesse, c'est-à-dire que Dieu est la sagesse même, source de toute autre sagesse, et que toute sagesse dans le monde découle de lui. Dieu est le souverain bien, c'est-à-dire deux choses. D'une part que tout bien dans le monde découle de Dieu, mais surtout que Dieu est la fin de toute chose, le but vers lequel nous tendons. Un homme ne peut pas être bon tant qu'il n'est pas parvenu à l'union à Dieu, la suprême bonté. Enfin, Dieu est un, il est souverainement un puisqu'il est absolument unique dans sa perfection. À partir de ces trois vérités fondamentales, nous allons voir en trois parties. Tout d'abord, les attitudes opposées. Deuxièmement, la perfection du martyr. Troisièmement, comment nous pouvons atteindre cette perfection aujourd'hui sans être martyr. Tout d'abord, les attitudes opposées. Contre Dieu vrai, la première attitude opposée, c'est le mensonge. Mais ce n'est pas la pire, parce que le mensonge est encore un hommage à la vérité. Une attitude plus grave, c'est la négation de la vérité. Une attitude encore plus grave, c'est la négation qu'il existe une vérité et qu'il puisse exister une vérité. Et vous avez une opposition qui est encore plus grave, c'est celle de l'homme moderne qui impose sa fausse sagesse à la réalité, c'est-à-dire qui juge les choses non pas selon la sagesse de Dieu, mais selon sa sagesse à lui, l'homme. On dit que l'homme a remplacé la vérité de Dieu par une vérité qu'il crée lui-même. Cela n'est pas toujours très clair, évidemment, parce qu'on se demande comment l'homme peut créer une vérité artificielle. Et c'est tout à votre honneur, mes bien chers frères, de ne pas comprendre une telle subversion de la réalité et de penser qu'il s'agit peut-être d'une exagération dans les paroles. C'est pour ça que je vous dis que l'homme impose aux choses sa propre sagesse, c'est-à-dire en réalité son caprice. Il impose de voir les choses comme cela lui plaît. Et là, on est en plein dans le modernisme et dans toutes les erreurs contemporaines. Contre Dieu souverainement bon, vous avez l'erreur du personnalisme. Là, il faut que j'insiste un petit peu plus parce que nous sommes dans la série des sermons les vices à éviter par les catholiques, et notamment par les bons catholiques qui ont déjà compris beaucoup de choses. Or, les bons catholiques savent qu'il y a un gros problème avec la vérité dans le modernisme, mais très peu ont entendu parler du personnalisme. Comme Dieu est le souverain bien, il est normal que, devant l'amour de Dieu, nous nous oublions nous-mêmes. C'est ce que dit l'acte de charité. « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose. Pourquoi ? Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. » Le personnalisme, c'est exactement l'inverse. « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur parce que cela me fait du bien. » Le personnaliste use de toute chose à son profit. Enfin, la troisième erreur contre l'unité de Dieu, Dieu un, c'est le libéralisme qui fait deux parts dans la vie, une pour Dieu et une pour soi-même. Il y a comme un plafond de verre entre les vérités de la foi tout en haut et puis les réalités humaines en dessous, et sans communication, sans éclairage des vérités de la foi sur les réalités humaines, et sans que les réalités humaines soient mises au service, même soient sacrifiées à l'amour de Dieu. Eh bien, précisément, deuxième partie du sermon, précisément, le martyr, c'est la consécration totale à ces trois perfections divines. Le martyr témoigne de la vérité suprême de Dieu, non seulement la vérité théorique, puisqu'il est prêt à perdre la vie plutôt que de nier Dieu, mais également de la présence de Dieu dans sa vie, mais une présence concrète. Par exemple, sainte Blandine doit être livrée à une vache furieuse. La vache la lance en l'air, la blesse, et quand on la sort de l'arène, elle dit « Alors, quand doit-on nous exposer à cette vache furieuse ?» Ses compagnons lui disent « Mais c'est déjà fait. Ah bon, je ne me suis rendu compte de rien. Il faut qu'on lui montre les blessures sur son corps pour qu'elle admette que les épreuves de son martyre ont effectivement déjà bien commencé. » Sainte Perpétue, qui souffre dans les douleurs de l'accouchement, son gardien lui dit « Ah, tu souffres maintenant et tu cries, et tu verras quand ça sera le moment du martyr, ça sera encore pire. » Et elle lui répond « Non, parce que pour l'instant c'est moi qui souffre, mais pendant le martyr c'est Jésus-Christ qui souffrira en moi. » Le martyr témoigne que Dieu est le souverain bien. Il méprise tout par amour de Dieu. Il méprise tous les biens, le monde et même la vie par amour de Dieu. Enfin, quant à Dieu un, le martyr met l'unité parfaite dans sa vie. Il cesse d'être partagé entre le monde et Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Un martyr ne peut pas être libéral. Sinon, ce n'est plus un martyr, ou ce n'est plus un libéral. Eh bien, maintenant, troisième partie du sermon, maintenant que nous avons vu, à partir de ce que Dieu est, nous avons vu les vices, nous avons vu à l'opposé la perfection du martyr, la perfection vertueuse du martyr, il ne nous reste plus qu'à faire l'application pour ceux que Dieu n'appelle pas au martyr. Il les appelle tous, cependant, tous les chrétiens, il les appelle à témoigner de la suprématie de sa sagesse. Il nous appelle tous à aimer Dieu par-dessus toute chose, parce que c'est lui, parce qu'il est bon, parce qu'il est le bon Dieu, et non pas parce que nous y trouvons notre intérêt. Il nous appelle tous à restaurer l'unité de notre vie en cessant d'être partagés entre le monde et Dieu, entre la chair et Dieu, entre les caprices et Dieu. C'est en cela que le martyr est un modèle, et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait tant de sermons sur le martyr. Bien sûr, il est possible que parmi vous, parmi nous, peut-être moi, certains doivent subir le martyre du sang. Mais le démon est intelligent et il sait que le sang des martyrs est semence de chrétiens et il fait tout pour éviter le martyre du sang. Du coup, il crée un martyre peut-être plus douloureux encore. Et c'est ce martyre auquel je veux vous préparer. Je vais même aller plus loin, c'est ce martyre que je souhaite que vous désiriez. Je viens de mettre en vente sur le site de la librairie le livre de Huynh, 23 ans oubliés dans le goulag Viet Minh. Quand la souffrance est trop grande, Huynh songe à se suicider et il se dit non, je suis officier de l'armée française, il faut qu'on puisse s'appuyer sur moi. Il va ainsi passer encore une vingtaine d'années dans le goulag Viet Minh, et cela c'est un martyr moral. Un martyr physique aussi, mais surtout un martyr moral. Prendre exemple sur les martyrs, c'est ce qu'ont fait les premiers moines. Lorsque les persécutions cessèrent dans l'Empire romain, les bons chrétiens qui voulaient vraiment se donner totalement à Dieu se sont comme enfermés dans la solitude. Au début, c'était dans le fin fond du désert d'Égypte. Après cela, ce fut dans des monastères. Et on dit encore aujourd'hui que celui qui fait le vœu solennel de se consacrer à Dieu ainsi dans la vie religieuse parfaite, c'est pour lui comme un second baptême. C'est ce qu'on disait pour les martyrs. Le martyr est un second baptême parce que cela efface tous les péchés passés et donne le droit, si on meurt à ce moment-là, d'entrer directement au ciel. Hélas, si on vit plus longtemps, il arrive qu'on gâche cette grande grâce et qu'on fasse des péchés. Mais se donner totalement à Dieu est un second baptême. Il faudrait que nous prenions conscience, mes bien chers frères, que cette consécration totale à Dieu nous a été demandée le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, mais qu'elle nous est demandée de nouveau à chaque communion. Il faudrait, ou plutôt il faut, que nous prenions modèle sur sainte Thérèse d'Avila, sur saint François d'Assise, sur saint Antoine de Padoue, à l'exemple des martyrs, pour être des martyrs dans le témoignage de la foi. Dans le prochain sermon, je répondrai à l'objection, mais à quoi cela sert-il ? Or, les martyrs nous donnent la réponse. Ça ne sert à rien, ou plutôt je ne m'occupe pas de savoir si ça sert à quelque chose ou si ça ne sert pas à quelque chose. Je ne m'occupe pas de savoir à quoi cela sert. Je suis fidèle à Dieu pour être fidèle à Dieu. Je suis avec Dieu pour être avec Dieu. Je suis au pied de la croix et je porte ma croix pour être avec Jésus-Christ et avec la Sainte Vierge. Quels vont être les fruits de ma fidélité à Dieu dans le catholicisme traditionnel? Eh bien, il faudrait que nous puissions nous dire, peu importe ce que sont les fruits extérieurs, je suis fidèle à Dieu pour être fidèle à Dieu, et j'en porte le témoignage à la face du monde, parce que c'est cela que Dieu me demande. Monseigneur Lefebvre porte témoignage de la vérité de la foi à la face du monde, et lorsque les journalistes l'interrogent, « Mais vous êtes seul, Monseigneur !» Monseigneur répond, « Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Depuis quand la vérité dépend-elle de ce que je sois seul ou pas seul ?» Et il ajoute aussitôt, « D'ailleurs, je ne suis pas seul, puisque je suis avec tous les saints qui nous ont précédés. » Quant au bien, Dieu qu'il s'ouvre un bien, avec l'erreur du personnalisme qui est si fréquente, Je crois très sincèrement, mes bien chers frères, que le remède concret, c'est d'admirer les martyrs et de chercher à les imiter. Et cela dès le plus jeune âge. Si je vous explique ce qu'est le personnalisme, ça sera déjà très difficile à vous expliquer parce que c'est tellement contre nature qu'on se demande de quoi on peut parler. Si je vous le décris, ce sera une série de faits, on n'en sortira plus. Si je vous dis qu'il faut que nous soyons consacrés à Dieu, à l'Église, à la chrétienté, comme les martyrs se sont consacrés à Dieu, qu'il faut que nous le fassions sans rien retenir pour nous-mêmes, sans rien nous garder, non seulement des biens matériels, mais aucune affection, aucun retour sur nous-mêmes. Voilà, le martyr sera un modèle pour nous. Nous entendons encore trop souvent « j'ai besoin de ma messe, j'ai besoin de mon prieuré, j'ai besoin de ma chapelle ». Vous imaginez Rose U refusant d'entrer dans les geôles communistes sous prétexte qu'elle n'aurait plus la communion, plus les sacrements, plus de prêtres, et cela pendant 30 ans, et ça aurait pu durer plus longtemps encore, elle ne le savait pas en y entrant. Il lui était pourtant facile de continuer à voir les sacrements, les prêtres, les églises. Il suffisait d'entrer dans l'église patriotique, c'est-à-dire sous contrôle chinois. Non. Dire « j'ai besoin », c'est partir de nous, au lieu de partir de Dieu. Si Dieu nous demande quelque chose, il nous donne ce qu'il faut pour réussir. Il ne nous donnera peut-être pas toujours les sacrements, il ne nous donnera peut-être pas toujours un prêtre, il ne nous donnera peut-être pas toujours une chapelle, une paroisse, mais il nous donnera toujours son amour, sa force, sa grâce, son soutien, l'aide de la Sainte Vierge. Enfin, il faut que nous prenions modèle sur les martyrs pour rétablir l'unité dans notre vie, pour cesser d'être partagés dans nos amours, dans nos désirs, dans nos fiertés. Là encore, si vous êtes atteint de libéralisme, mes bien chers frères, et qui n'est pas atteint de libéralisme de nos jours quand on voit que Mgr Lefebvre s'accusait lui-même d'être encore libéral? Le seul remède pour vous et pour vos enfants, c'est l'admiration, l'estime pour les martyrs et le désir de les imiter. La conclusion de ce sermon, mes bien chers frères, se trouve dans le message de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima demande aux enfants un véritable martyr, en ce sens que ils vont cesser de s'appartenir à eux et être intégralement consacrés à l'œuvre du Christ, c'est-à-dire au salut des âmes. Et d'ailleurs, ils le comprendront bien, puisqu'ils feront beaucoup de sacrifices et beaucoup de prières comme la Sainte Vierge le leur a demandé. Nous-mêmes, mes bien chers frères, il faut que nous soyons des martyrs de Notre-Dame de Fatima. Que notre vie se consume dans un tel amour de la Sainte Vierge que nous ne travaillions qu'à lui faire plaisir, est-ce qu'elle nous demande aujourd'hui, pour lui faire plaisir, ses prières et pénitences pour le salut des pécheurs? Ce que Dieu a demandé aux premiers martyrs, à Sainte Blandine, à Sainte Perpétue et à tous les martyrs, c'était de donner joyeusement leur vie pour lui. Ce que la Sainte Vierge nous demande à nous aujourd'hui, c'est de donner joyeusement notre vie, notre confort, nos aises, nos préoccupations, pour nous consacrer exclusivement à l'amour de Dieu dans le salut des pécheurs par prière et pénitence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.